de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le tourisme indonésien doit s'efforcer d'augmenter la capacité d'accueil des touristes étrangers. La position de l'Indonésie est ferme et claire devant la CIJ, a déclaré un professeur de l'OGM. L'Indonésie va travailler sur les perspectives des produits halal en Nouvelle-Zélande. Le membre du DPR affirme que le projet de loi EBET peut accélérer la transition énergétique en Indonésie. Le ministre de l'Investissement est convaincu que l'objectif d'investissement sera atteint grâce à la réponse positive à l'élection présidentielle. Dispar a déclaré que 1000 citoyens américains visiteraient la ville de Jayapura. Voici le journal complet. Le ministre du Tourisme et de la Communication Créative, Sandiaga Uno, dans le bref hebdomadaire avec Sandi Uno à Jakarta, lundi 26 février 2024, a déclaré que parmi le tourisme de l'ASEAN, l'Indonésie doit encore lutter car en termes de nombre de touristes étrangers, l'Indonésie est à la traîne par rapport à la Malaisie, la Thaïlande, au Vietnam et à Singapour. Mais l'Indonésie est considérée comme ayant encore des possibilités d'améliorer sa qualité. Sandiaga Uno a déclaré que l'une des raisons pour lesquelles l'Indonésie est à la traîne est le faible nombre de sièges pour les vols vers l'Indonésie. Selon lui, pour augmenter la capacité en sièges, le gouvernement encouragera davantage de vols vers l'Indonésie et mettra en œuvre une politique d'exemption de visa plus conviviale pour les touristes étrangers.
Ada top 10 seat capacity ke Indonesia. Ini dari Malaysia, Singapura, Australia, Saudi Arabia, Thailand, China, Uni Emirat.
Il y a donc une capacité de top 10 sièges vers l'Indonésie depuis la Malaisie, Singapour, l'Australie, l'Arabie Saoudite, la Thaïlande, la Chine, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, Hong Kong et le Japon. Nous devons augmenter cela avec une stratégie qui n'est pas ordinaire mais extraordinaire. Avant que les touristes étrangers puissent occuper les sièges disponibles et nous devons également encourager davantage de vols vers l'Indonésie ainsi qu'une politique de visa plus conviviale pour les touristes étrangers. Sandiaga Uno a en outre déclaré qu'il ne s'agissait pas seulement d'une augmentation du nombre de vols vers l'Indonésie sans visa. Le gouvernement augmentera également l'interconnectivité avec les routes maritimes et aériennes. Selon Sandiaga Uno, ces stratégies seront mises en œuvre en 2024 avant que l'intensité du marché international indonésien puisse se transformer en véritable visite des touristes étrangers. Sigit Rianto, Profesor Kedudukan Universitas Gadjah Mada UGM di Yogyakarta, akepong du pesibumang ala deklarasyon de la ministre indonesien des affaires étrangères, Kreto Marsidi, devant la Cour internationale de justice, CIJ. La session de la CIJ à la Haye aux Pays-Bas s'est tenue vendredi pour soutenir l'avis consultatif de la Cour concernant les conséquences juridiques de l'occupation de la Palestine par Israël. Lors de l'audience, la ministre Retno a déclaré que l'occupation israélienne devait cesser immédiatement. Israël devrait également compenser ce qu'il a fait à la Palestine. Comme il a déclaré lors de l'Avis of Indonesia, Rianto a déclaré que la déclaration de la ministre était très claire et ferme sur les questions fondamentales qui doivent être tranchées et déterminées par les juges concernant l'occupation israélienne.
Saya melihat bahwa Ibu Menlu sudah sangat jelas dan tegas menyentuh isu-isu hukum fundamental yang.
Je considère que la ministre des Affaires étrangères a abordé très clairement et avec insistance des questions fondamentales qui doivent être tranchées et déterminées par les juges, afin de fournir un avis juridique juste sur la question de l'occupation des territoires palestiniens par Israël qui dure depuis longtemps, depuis le siècle dernier. Sigit a déclaré que la ministre Retno représente bien l'Indonésie pour l'engagement et les aspirations du pays envers la communauté internationale. Pas moins de 38 pays partagent le même point de vue concernant l'occupation israélienne de la Palestine, considérée comme un acte illégal et contraire au droit international. Le porte-parole du vice-président indonésien Mas Duki Bedlowi a déclaré que l'Indonésie travaillait sur les perspectives des produits halal en Nouvelle-Zélande à travers les relations diplomatiques entre les deux pays. Citant par Antara, Mas Duki a déclaré lundi à l'aéroport international d'Auckland en Nouvelle-Zélande que l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande avaient établi des relations commerciales pour les produits halal sous la forme d'exportation de produits agricoles à la viande bovine. Il a ajouté que de nombreuses communautés musulmanes se développent en Nouvelle-Zélande et qu'elles ont donc besoin d'une garantie des produits halal utilisant la certification du Conseil indonésien des ulémas MOI. Pour cette raison, a déclaré Mas Duki, le vice-président Ma'ruf Amin visite la Nouvelle-Zélande du 25 février au 2 mars pour poursuivre la diplomatie halal pour la communauté mondiale. Le vice-président Ma'ruf Amin se rendra également à Wellington et à Auckland pour rencontrer le premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon et le vice-premier ministre Winston Peters. Ratna Juitasari, membre de la commission 7 de la Chambre des représentants ou DPR, a déclaré que la ratification du projet de loi sur les énergies nouvelles et renouvelables ou RUUEBET pour accélérer la transition énergétique en Indonésie. Ratna Juwita, dans une vidéo suivie par Antara via la chaîne YouTube de TVR parlementaire, a déclaré lundi 26 février qu'il est important que le projet de loi EBET soit adopté immédiatement pour devenir une base juridique dans le processus de développement et d'utilisation de nouvelles sources des énergies nouvelles et renouvelables. Il a également souligné que le DPR soutient le projet du gouvernement de transition des énergies fossiles vers des énergies nouvelles et renouvelables afin qu'elles deviennent plus respectueuses de l'environnement. Le ministre de l'Investissement, en tant que chef du Conseil de coordination des investissements, BKPM, Bahlil Hadalia, estime que l'objectif d'investissement de 1 650 milliards de roupiah pour 2024 est atteint. Après que le marché et les investisseurs aient réagi positivement au résultat de l'élection présidentielle au Pilpres. Bahlil Hadalia, au palais présidentiel de Jakarta, expliquait lundi qu'avant les résultats des élections de 2024, les investisseurs attendaient toujours de futurs investissements. Cependant, avec les résultats des élections qui sont en train d'être annoncés, Bahlil pense que la réponse du marché et des investisseurs sera positive. Selon lui, l'objectif d'investissement de cette année peut être atteint même si la situation économique mondiale est incertaine et pas très bonne. L'Office du tourisme ou d'ISPAR de la ville de Jayapura en Papouasie a déclaré que jusqu'à 1 000 ressortissants étrangers ou WNA des États-Unis visite rend la ville de Jayapura en 2025. Le chef de l'office du tourisme de la ville de Jayapura, Mathias Mano à Jayapura, a déclaré lundi 26 février qu'un millier de citoyens américains feraient le tour du monde à bord de navires de croisière à partir de juillet 2024 des États-Unis vers l'Asie puis vers la région du Pacifique. Selon Mathias Mano, en Indonésie, trois villes seront visitées, à savoir la ville de Surabaya, Jakarta et la ville de Jayapura. Ils seront à Jayapura pendant environ 4 jours. Mano expliquait que pendant leur séjour à Jayapura, le groupe de touristes visiterait des destinations touristiques dans la ville et la région de Jayapura. Il a ajouté que les visites des touristes étrangers dans la ville de Jayapura auront un impact sur le secteur touristique de la région, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises MPME de la ville de Jayapura. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc le commentaire et en pour le titre « L'Indonésie cible la croissance économique en 2025 ». La croissance économique de l'Indonésie a montré une tendance positive ces dernières années. Des facteurs comme un investissement important, une consommation intérieure stable et les efforts du gouvernement en matière de réformes structurelles ont contribué à une croissance économique solide. Toutefois, des défis tels que l'incertitude mondiale et les changements dans les politiques nationales restent des facteurs dont il faut se méfier. Le gouvernement indonésien cible une croissance économique de 5,3 à 5,6% en 2025. En dehors de cela, le gouvernement vise également à réduire le taux de pauvreté à 6,7% et le taux de chômage déclaré à 4,5%. Cet objectif a été discuté lors d'une séance plénière du cabinet présidé par le président Joko Widodo au Palais d'État de Jakarta, lundi 26 février 2024. La réunion du cabinet a approuvé le plan de travail du gouvernement RKP sur le thème « Accélération de la croissance économique inclusive et durable » ainsi que la préparation du cadre macroéconomique et des principes de politique budgétaire 2025 au KEMPPKF. Le ministre de la Planification du Développement National, en tant que chef de BAPENAS, Suharto Manoarfa, après la réunion du cabinet, a déclaré que la croissance économique était inclusive et durable et les mots accélération ont été utilisés, étant donné que 2025 était le début du Plan National de Développement à moyen terme, ou RPGMN, pour 2025-2029. Il a également révélé que le RPGMN 2025-2029 est très stratégique et fait partie du plan initial de développement national à long terme pour 2025-2045 vers une Indonésie dorée. On espère que grâce au RKP et au KEMPPKF 2025, l'Indonésie pourra sortir du piège du revenu moyen ou MIT en 2038 avec un objectif d'un taux de croissance moyen de 7% ou d'un minimum de 6%. Le MIT décrit une situation dans laquelle les pays à revenu moyen sont incapables de faire la transition vers les pays à revenu élevé. Cela est dû au fait que la productivité du travail est encore faible, que les coûts de production sont élevés et que la production de biens n'a pas une grande valeur ajoutée et ne peut donc pas être compétitive au niveau international. En fin de compte, le MIT a entraîné un ralentissement de la croissance économique, une stagnation du revenu par habitant et une augmentation du niveau de vie de la population. Quitter le MIT et devenir un pays développé en 2045 constitue en effet un effort sérieux de la part du gouvernement du président Joko Widodo. L'une des conditions est une augmentation de la croissance économique l'ordre de 5 à 7%. Pour parvenir à une croissance économique élevée et durable, le gouvernement et le monde des affaires doivent renforcer la structure économique nationale en construisant des infrastructures, en encourageant les investissements et en renforçant les industries de transformation axées sur l'exportation. Pour accéder à la catégorie des pays à revenu élevé, le revenu par habitant du pays doit atteindre $13,845 et plus. Cela signifie que le revenu par habitant de l'Indonésie doit tripler par rapport au niveau actuel jusqu'en 2038 ou avant l'objectif du président Joko Widodo de 2045. Espérons que le gouvernement vient d'être formé à la suite de l'élection présidentielle de 2024 pour atteindre cet objectif et que l'Indonésie pourra devenir un pays développé. Bien entendu, cela nécessite un travail acharné et une forte détermination ainsi qu'une coopération étroite entre les différents éléments pour y parvenir. C'est Julita, c'était le commentaire pour ce soir. C'est Julita, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la commémoration de la Journée mondiale des ONG ou organisations non gouvernementales. Le 27 février est célébrée la Journée mondiale des organisations non gouvernementales ONG. La Journée mondiale des ONG est une journée internationale dédiée à la reconnaissance et à l'honneur de toutes les organisations non gouvernementales et à but non lucratif. La Journée mondiale des ONG a été fondée par un entrepreneur social nommé Marcis Lioris Skatmanis en 2009. Cependant, la Journée mondiale des ONG n'a reçu qu'une reconnaissance internationale et a été célébrée pour la première fois à l'échelle mondiale le 27 février 2014. Passons maintenant à l'événement du 27 février 2010, les tremblements de terre ont secoué le Chili. Le 27 février 2010, un séisme d'environ 8,8 sur l'échelle de Richter a secoué le Chili. L'épicentre se trouvait à environ 200 milles au sud-ouest de Santiago, la capitale du Chili. La catastrophe aurait fait 432 morts. Le tremblement de terre a également provoqué un tsunami dont les vagues ont atteint la Nouvelle-Zélande Hawaï, le Japon et d'autres îles de l'océan Pacifique. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la commémoration de la Journée internationale de l'ours polaire. La Journée internationale de l'ours polaire est célébrée le 27 février. Cette journée a été créée par l'organisation à but non lucratif Polar Bear International, ou PBI, en 2011. Le but de cette journée est de sensibiliser toutes les parties à la protection de l'ours polaire, une espèce en voie de disparition. C'est l'histoire, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Aku raja bertata. Faratu. Kau tinggalkan segaris warna hitam biru.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie avec moi, Audrey, intitulée Bappenas aide les MPME à accéder au marché d'exportation. Chaque jour, l'Agence nationale de l'alimentation Bappenas aide les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à accéder au marché d'exportation. La directrice de la distribution alimentaire et des réserves de Bappenas, Rahmi Widiriani, a exprimé ce soutien lors d'une réunion d'affaires tenue par le consulat général de la République d'Indonésie à Dubaï, Émirats Arabes Unis, dimanche 25 février 2024. Citant le site officiel de l'Agence nationale de l'alimentation dimanche 25 février, Rahmi a déclaré que le point central de la discussion lors de la réunion était la manière dont le gouvernement collabore pour soutenir le développement des micro, petites et moyennes entreprises MPME, PUMKM, principalement indonésiens, afin que leurs produits puissent pénétrer avec succès sur le marché d'exportation. Rahmi a expliqué que Bappenas soutient toujours les activités d'exportation, en particulier les produits alimentaires frais d'origine végétale, PSAT. Afin qu'ils puissent contribuer à l'économie nationale, il a déclaré qu'en ce qui concerne les exportations, Bappenas est impliqué dans la mise en œuvre des normes de sécurité alimentaire comme garantie de la qualité des produits alimentaires qui sont des produits d'exportation. Selon Rahmi, la délivrance d'un certificat sanitaire est une norme de sécurité alimentaire pour les produits indonésiens d'exportation. Elle a ajouté que ce certificat sanitaire pour certainement minimiser le rejet des pays de destination des exportations, de sorte qu'il ne gêne pas les acteurs commerciaux nationaux. Bappenas s'engage à encourager la mise en œuvre des normes de sécurité alimentaire pour garantir la qualité des produits alimentaires consommés, ainsi qu'à encourager l'augmentation des exportations de produits alimentaires indonésiens vers les pays étrangers. Bappenas apprécie également les secteurs commerciaux d'importation et d'exportation de produits frais qui ont enregistré leurs produits comme une forme de sensibilisation à la sécurité alimentaire. Par ailleurs, le chef de Bappenas, Arif Prasetyoadi, a déclaré que les MPME indonésiens ont un grand potentiel pour apporter des produits de qualité supérieure sur le marché mondial. Elles doivent donc accroître leur contribution. à la croissance économique nationale. RIF a déclaré que, sur la base des données statistiques sur l'enregistrement total et la certification dans le système d'information sur les aliments frais d'origine végétale, géré par Bapanas tout au long de 2023, le nombre de certificats de garantie de sécurité alimentaire ou certificats sanitaires était de 659 début 2024. Il y avait 67 certificats sanitaires. La réunion d'affaires s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République d'Indonésie auprès des Émirats arabes unis, Hussein Baghis, de l'ambassadeur de la République d'Indonésie auprès de la République d'Ouzbékistan et du Kyrgyzstan, le professeur Sunario Kartadinata, ainsi que des représentants de 23 entreprises d'Indonésie et 19 entreprises d'Ouzbékistan. La discussion a eu lieu pour discuter du suivi de Gulfood Dubaï 2024, dans l'espoir que les acteurs commerciaux transfrontaliers puissent développer davantage la coopération commerciale. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Mon Indonésie. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Lakuku, biarkanlah kali ini kan ku obati. Hanya restumu yang kan mampu membuka jalan. Dari teriknya dunia yang tak henti habis, terbakar oleh hasratku. Oh, aku berdiri di tepian ruang hampa.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter diverses traditions en Indonésie pour la conservation de la nature. La nature est un charme et une beauté qui peuvent devenir une attraction touristique. Mais la nature doit être entretenue pour que son charme soit toujours conservé. C'est pourquoi il est nécessaire que chacun soit sensibilisé pour continuer à préserver la nature. La conscience de la protection de la nature et de l'environnement existe déjà dans la société et même devenue une tradition distinctive dans certaines régions. Nous vous présentons certaines de ces traditions et la première, la tradition de Ruat Laut. La tradition de Ruat Laut est devenue une tradition pour les communautés côtières. Initialement retenue par de nombreuses personnes sur la côte de Java, il est ensuite étendu à l'île de Sumatra. Fondamentalement, cette tradition est une expression de gratitude envers Dieu qui a accordé les bénédictions de la mer ainsi qu'une demande de protection de Dieu. Cette tradition est commencée par une prière dirigée par un chef religieux et ensuite suivie de la libération de la tête de buffle abattu selon les procédures religieuses et placé sur un bateau décoré. Il y a aussi la tradition Pacagoya à Tidore. La tradition de Pacagoya est une tradition des habitants du village de Kalaudi, Tidore. Pacha signifie purification, tandis que Goya est un lieu sacré. Conceptuellement, la tradition Pacha Goya est un rituel traditionnel dans un lieu sacré pour la sécurité des enfants, des petits-enfants, des résidents de Kalaudi et traditionnellement fait pour faire la paix et être amical avec la nature environnante. Cette tradition existe depuis des générations et se déroule généralement après la grande saison de récolte. Cette tradition est aussi un effort des habitants de Kalaudi pour ne pas endommager et exploiter les excès de la nature. Cet engagement est un enfermement par un serment appelé Bobeto, qui signifie « celui qui détruit la nature le détruira ». Les habitants des Moluques et de Papouasie connaissent la tradition de Sassi. En termes locaux, cela signifie l'interdiction. La tradition de Sassi est une interdiction de récolter ou de prendre certaines ressources naturelles dans les zones coutumières pendant un certain temps. Cette tradition peut être faite sur terre ou bien en mer. Sur terre, la tradition de Sassi est appliquée pour interdire aux gens de récolter certains produits du jardin et en mer. La récolte est interdite pour certains types de poissons. Cette tradition est menée dans le but de protéger l'écosystème et la population afin qu'ils ne soient pas endommagés et épuisés. Chers amis, c'était la rubrique magazine culturel de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
You the one, boy, I thought that you're the one. Got me feeling so crazy, every day you on my mind. Then it's over and we're done, but this time I won't cry. But why? Well, cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock, then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go, they just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when you left, is what I gotta say though. Hey.
Won't shed no tears. Yes, I got this. Won't shed no tears. I'll find my own place.
Charge Lutard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Wah, rasanya unik. Wah, rasanya unik. En français, waouh, le goût est unique. Bonne écoute. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Wah, rasanya unik. Wah, rasanya unik. Waouh, le goût est unique. Cette conversation se déroule entre Chris George Robinson, un vlogueur australien, et Sortauli, une amie de la communauté vlog de Chris. Chris a exprimé sa surprise et son admiration pour le goût de la soupe silongkang, une spécialité Sawah Lunto. Bonne écoute.
Sudah pernah makan sup daging sapi kan?
Tentu saja.
Ini sup silongkang, sup daging sapi khas Sawah Lunto.
Wah, rasanya unik. Beda dengan sup daging lain.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui intitulé Wah, rasanya unik. Wah, rasanya unik. En français, waouh, le goût est unique. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Wah, wah, en français, wow. Rasanya, rasanya, le goût. Unique, unique, unique. Wah, rasanya unique. Wah, rasanya unique. Wow, le goût est unique. Soupe daging sapi. Soupe daging sapi. La soupe de bœuf. Khas. Khas. Typique. Beda. Beda. Différent. Tentu saja. Tentu saja. Bien sûr. Chers amis, outre la soupe silongkang, la province de Sumatra occidentale propose de nombreux plats délicieux, dont le rendang qui a été désigné comme patrimoine culturel immatériel indonésien en 2013. Le rendang également connu sous le nom de rendang. Rendang, rendang, est un plat de viande cuit avec des épices et du lait de coco. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Sudah pernah makan sup daging sapi kan?
Tentu saja.
Ini sup silongkang, sup daging sapi khas Sawah Lunto.
Wah, rasanya unik. Beda dengan sup daging lain.
Chers auditeurs, voilà l'édition d'Apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
matamu, bibirmu membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Senyummu, manjamu terus saja buat aku memikirkan dirimu. Kau baru berlalu di hadapanku dan menatapku. Oh, kau tersenyum ayu, lidahku keluh hanya membisu. Ku tahu ku mampu buat kau jatuh di pelukanku. Ku yakin ku sanggup buat kau takjub pada diriku. Matamu, bibirmu membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Buatku tak pernah senangmu, manjamu terus saja buat aku
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Cette fois-ci, j'ai joué une chanson malaise intitulée Kuala Lumpur, chantée par Maharani. Cette chanson a été créée par Eric S. Et cette chanson malaise typique de Pelalawan Riau raconte de la rivière Kuala Lumpur. Dans les paroles, on dit que cette rivière est très célèbre pour ses eaux calmes, où les pêcheurs ramont leur canoë, gagnant leur vie jour et nuit. Bon, chers auditeurs, voici Kuala Lumpur de Maharani. Bonne écoute!
Kuala Lumpur sejak dahulu telah dikonang. Sungainya empatlah orang mengail ikan, babelok-belok batang sungainya
hebatlah orang penambat sampan. Inilah dendang Kuala Napo. Hai, inilah dendang Kuala Napo.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web, www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.